France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Emmanuel Robles, écrivain de la dernière génération arrivée à maturité dans l'Algérie coloniale française. Il est né en 1914 à Oran, issu d'une famille de colons espagnols. Cela ne l'a pas empêché de vivre l'utopie combattante pour une autre Algérie, avec d'autres écrivains, dont le premier fut Mouloud Feraoun, auteur de L'anniversaire, Mouloud Feraoun, rencontré à l'école normale d'instituteurs. Emmanuel Robles a été introduit au journal Alger Républicain par Albert Camus. Il a fondé avec Albert Camus le théâtre de l'Équipe. Il a écrit et publié des romans, dont La Haute Ville, qui a obtenu le prix Femina en 1948. Retrouvez Emmanuel Robles dans l'émission Le Livre de Chevet de Jean-Vincent Bréchignac. Il va lire les écrivains qui l'ont formé, Albert Camus, Dostoïevski, Hemingway.
Le Livre de Chevet d'Emmanuel Robles.
Emmanuel Robles, vous avez vous-même, dans un numéro du Simoun, en 1960, évoqué votre première rencontre avec Albert Camus. C'était au Vraie Richesse, la librairie d'Edmond Charlot. Vous étiez militaire, vous attendiez la publication de votre premier livre, L'Action, ce cri d'une jeunesse révoltée et hantée par la mort. Et vous faites allusion à ce sang d'Espagne que vous aviez tous les deux, Camus et vous, à votre amour pour Alger, dont Camus, je crois bien, disait « c'est la ville du bonheur ». Vous avez choisi, pour cette série sur vos livres de chevet, L'étranger. Pourquoi ?
D'abord, à l'origine, il y a Camus. L'étranger, Meursault, je ne le confonds pas avec Camus. Camus n'est jamais passé en cour d'assises pour meurtre, c'est bien évident. Mais cela dit, ce qui m'intrigue et ce qui me passionne à travers L'étranger, c'est à peu près ce qui m'intrigue et me passionne à travers Don Quichotte. C'est-à-dire qu'il y a là une énigme, il y a là quelque chose qui trouble la conscience humaine à travers les personnages, j'entends qu'il s'agisse de Don Quichotte lui-même ou de Meursault. Cet homme, Meursault, est si complexe que même pour le cerner, lorsque j'ai aidé Visconti, j'ai collaboré au film qu'il a tiré de L'étranger, même à ce moment, je n'ai pas pu le définir exactement, tellement il m'apparaît riche, riche de vérité humaine, riche de complexité. Et voilà pourquoi je le scrute à maintes reprises. Il y a d'abord Alger, vous l'avez dit, c'est évident, il y a une atmosphère algéroise qui est très admirablement rendue. Il y a bien sûr cette figure de Camus qui se profile à travers celle de Meursault, sans toujours se superposer, c'est bien évident. Mais il y a cette étrangeté, il faut bien dire le mot. Et par exemple, si je vous lis un court passage, comme celui du chapitre 5, vous vous rendez compte tout de suite de ce qu'il a de fascinant et ce qu'il propose d'interprétations différentes. Écoutez, nous sommes dans le bureau de Meursault et son patron le fait demander. Donc le patron me fait appeler et sur le moment j'étais ennuyé parce que j'ai pensé qu'il allait me dire de moins téléphoner, de mieux travailler. Ah, ce n'était pas cela du tout. Il m'a déclaré qu'il allait me parler d'un projet encore très vague. Il voulait seulement avoir mon avis sur la question. Il avait l'intention d'installer un bureau à Paris qui traiterait ses affaires sur la place et directement. Directement avec les grandes compagnies. Il voulait savoir si j'étais disposé à y aller. Cela, dit-il, me permettrait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année. Vous êtes jeune, il me semble que c'est une vie qui doit vous plaire. J'ai dit que oui, mais que dans le fond, cela m'était égal. Il m'a demandé alors si je n'étais pas intéressé par un changement de vie. J'ai répondu qu'on ne changeait jamais de vie, qu'en tout cas, tout se valait et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu l'air mécontent, m'a dit que je répondais toujours à côté, que je n'avais pas d'ambition et que cela était désastreux dans les affaires. Je suis retourné travailler alors et j'aurais préféré ne pas le mécontenter, mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y réfléchissant bien, je n'étais pas malheureux. Quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup d'ambition de ce genre. Mais quand j'ai dû abandonner mes études, j'ai très vite compris que tout cela était sans importance réelle. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu, comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ?» elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait, et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu non. Elle s'est tue un moment et elle m'a regardé en silence. Vous pouvez constater dans ce court passage, dans ce petit diptyque, que les expressions « j'ai dit que oui, mais que dans le fond, cela m'était égal » rejoint le « j'ai dit que cela m'était égal » qui dit à Marie. De la même manière, j'ai très vite compris que tout cela était sans importance réelle. À Marie, je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance. Il y a cette indifférence. Elle procède de quoi, l'indifférence de Meursault? A priori, c'est la fatalité de la mort qui conditionne l'attitude et le comportement moral, et le comportement tout entier de Meursault. C'est cela, et en même temps, quand on imagine que l'auteur de ce livre, assez désespérant, non pas au sens affectif du mot désespérant, mais au sens réel d'un homme sans espoir, sans l'espoir d'une autre vie, donc toute une vie qui est ramassée sur le plan terrestre, quand on sait que Meursault était cet homme muré et qu'il y avait au contraire chez Camus une passion de vivre, une ardeur à vivre, que j'ai connu, puisque je l'ai fréquenté dans la même période où il écrivait L'étranger, il y a là une énigme qui me passionne et qui fait que je n'ai jamais cessé, depuis 1937, et depuis l'apparition du livre un peu plus tard, il est de 41, mais depuis 1937 où Camus m'en parlait à Alger, où le titre devait être « L'indifférent », c'est le premier titre. Depuis cette période-là, ce livre ne m'a jamais quitté. J'en ai diverses éditions et chaque fois, vous le voyez vous-même, il est annoté, il est scruté attentivement, exactement comme le Don Quichotte. Il y a un autre passage qui est intéressant, c'est celui du jugement. Nous nous trouvons devant un meurtre et un meurtre sans raison. Bien sûr, nous savons pourquoi il est sans raison. Après tout, nous dit Meursault, ou nous fait sentir Meursault, Dieu lui aussi tue, n'est-ce pas? Et il y a là quelque chose de dostoïevskien qui se concrétise au cours du procès, dont je vais vous lire simplement un passage pour mieux marquer ses tendances. « Voilà, messieurs, a dit l'avocat général, j'ai retracé devant vous le fil d'événements qui a conduit cet homme, c'est Meursault, à tuer en pleine connaissance de cause. J'insiste là-dessus, a-t-il dit, car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. Cet homme, messieurs, cet homme est intelligent. » Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il sait répondre, il connaît la valeur des mots. Et l'on ne peut pas dire qu'il a agi sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Moi, j'écoutais, j'entendais qu'on me jugeait intelligent. Mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes contre un coupable. Du moins, c'était cela qui me frappait, et je n'ai plus écouté le procureur jusqu'au moment où je l'ai entendu dire. A-t-il seulement exprimé des regrets? Jamais, messieurs. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. À ce moment, il s'est tourné vers moi et m'a désigné du doigt en continuant à m'accabler, sans qu'en réalité je comprenne bien pourquoi. Sans doute, je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître qu'il avait raison. Je ne regrettais pas beaucoup mon acte. Mais tant d'acharnement m'étonnait. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J'étais toujours pris par ce qui allait arriver, par aujourd'hui ou par demain. Et naturellement, dans l'état où l'on m'avait mis, je ne pouvais pas parler à personne sur ce ton. Je n'avais pas le droit de me montrer affectueux, d'avoir de la bonne volonté. Et j'ai essayé d'écouter encore parce que le procureur s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, messieurs les jurés. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme et que rien d'humain et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en cette moins facile mais plus élevée de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur, tel qu'on le découche chez cet homme, devient un gouffre où la société peut succomber. C'est alors qu'il a parlé de mon attitude envers maman. Il a répété ce qu'il avait dit pendant les débats. Mais il a été beaucoup plus long que lorsqu'il parlait de mon crime, si long même que finalement, je n'ai plus senti que la chaleur de cette matinée. Jusqu'au moment du moins où l'avocat général s'est arrêté, après un moment de silence, a repris d'une voix très basse, très pénétrée. Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Selon lui, l'imagination reculait devant cet atroce attentat. Il osait espérer que la justice des hommes punirait sans faiblesse. Mais il ne craignait pas de le dire. L'horreur que lui inspirait ce crime le cédait presque à celle qu'il ressentait devant mon insensibilité. En somme, cette page-là est fondamentale. Elle montre que toute cette attitude étrange de Meursault, eh bien, intrigue comme elle m'intrigue moi-même. Elle a intrigué ce tribunal. On ne le juge plus, et vous l'avez senti dans la lecture, pour le meurtre d'un homme, puisque le procureur a été beaucoup plus long, je cite, que lorsqu'il parlait de mon crime, si long même que finalement je n'ai plus senti que la chaleur de cette matinée. On l'accable sous l'indifférence qu'il a montrée au cours de l'enterrement de sa mère. Voilà un des passages clés, à mon sens, il en est bien d'autres, dans ce petit livre extrêmement dense, qui pose toute une série d'énigmes. Un autre point qui est intéressant, justement, à propos de Meursault, c'est qu'il dit la vérité. C'est un homme qui dit toujours la vérité, qui est toujours en accord avec lui-même. Et ce sont des vérités que les autres, l'entourage, ne peut pas accepter, ne peut pas admettre. Et c'est ce qui va le condamner avec cette indifférence qu'il a montrée devant la mort de sa mère. Mais c'est une indifférence, d'ailleurs, qu'il faudrait, elle aussi, longuement analyser. Car il n'y a pas eu indifférence, en fait, il y a eu une attitude devant la mort. En ce qui concerne cette autre attitude devant la vérité, voici où cette attitude va le conduire. Nous sommes encore au procès, à la fin du procès. Le président a toussé un peu et sur un ton très bas, il m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. Je me suis levé et comme j'avais envie de parler, j'ai dit, un peu au hasard d'ailleurs, que je n'avais pas une intention de tuer l'arabe. Ici, c'est moi qui parle, c'est exact. C'est un meurtre sans préméditation. Le président a répondu que c'était une affirmation, que jusqu'ici, il saisissait mal mon système de défense et qu'il serait heureux, avant d'entendre mon avocat, de me faire préciser les motifs qui avaient inspiré mon acte. J'ai dit rapidement, en mêlant un peu les mots, et en me rendant compte de mon ridicule, que c'était à cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle. Mon avocat a haussé les épaules, et tout de suite après, on lui a donné la parole. Eh bien, je commente encore ceci, lorsqu'on lit ce livre très attentivement, et qu'on lit le passage du meurtre, on se rend compte que cliniquement, il y a eu insolation. Meursault, après le repas au cabanon, si vous avez vu le film, vous avez vu la fameuse scène du cabanon, se rend de nouveau sur la plage après déjeuner et il est victime d'une sorte de congestion. Et lorsqu'il tire sur l'arabe, c'est vraiment sans cause, c'est vrai, mais sans préméditation aucune, sans désir de tuer. Il dit là la vérité. Et les gens, la cour, veut absolument avoir une motivation. L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'écoutais parce qu'il disait « Il est vrai que j'ai tué ». Puis il a continué sur ce ton, disant « Je » chaque fois qu'il parlait de moi. J'étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire. Et après un moment, il ajoutait « Tous les avocats font ça ». Moi, j'ai pensé que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro, et en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement, et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent, hélas, que le procureur. Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme. Mais contrairement à l'imminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose, et je puis dire, j'y ai lu à livre ouvert. Il y avait lu que j'étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qu'il employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Et je m'étonne, dit-il, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile, car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. J'arrête là, parce que nous nous rendons compte que ni le procureur, ni l'avocat, ni personne dans cet entourage, ne comprend Meursault. Et la lecture du livre permet d'obtenir des repères. Mais finalement, je le répète, l'énigme en ce qui concerne cette âme curieuse, étrange, cette création véritablement géniale de Camus, et le mot n'est pas trop fort, nous donne, pour un livre de chevet, une matière à réflexion.
Emmanuel Robles a lu ce soir quelques pages de L'étranger d'Albert Camus. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Je n'en ai pas fini avec L'étranger, qui, parmi mes livres de chevet, a une place très privilégiée avec le Quichotte. Je n'en ai pas fini parce que je ne cesse de m'interroger au sujet de cette figure créée par Camus, Meursault. Et le dernier chapitre, les dernières pages de ce livre, me semblent représenter précisément tout ce que l'on trouve ailleurs, rassembler tous les traits que l'on trouve ailleurs de ce Meursault. C'est une sorte de synthèse. Je vais m'efforcer de lire très patiemment, parce qu'il me semble que là, chaque détail, chaque phrase de l'auteur compte et définit bien cette étrange figure. Donc Meursault est en prison, il a été condamné à mort. Il y avait aussi deux choses à quoi je réfléchissais tout le temps, l'aube et mon pourvoi. Je me raisonnais cependant et j'essayais de n'y plus penser, je m'étendais, je regardais le ciel, je m'efforçais de m'y intéresser. Il devenait vert et c'était le soir. Je faisais encore un effort pour détourner le cours de mes pensées, j'écoutais mon cœur. Je ne pouvais imaginer que ce bruit qui m'accompagnait depuis si longtemps pût jamais cesser. Je n'ai jamais eu de véritable imagination. J'essayais pourtant de me représenter une certaine seconde où le battement de ce cœur ne se prolongerait plus dans ma tête. L'aube où mon pourvoi était là, je finissais par me dire que le plus raisonnable était de ne pas me contraindre. C'est à l'aube qu'il venait, je le savais. En somme, j'ai occupé mes nuits à attendre cet aube. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne plus dormir qu'un peu dans mes journées, et tout le long de mes nuits, j'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel, le plus difficile. C'était l'heure douteuse où je savais qu'ils opéraient d'habitude. Passé minuit, j'attendais, je guettais. Jamais mon oreille n'avait perçu tant de bruit distingué de son si ténu. Je peux dire d'ailleurs que d'une certaine façon, j'ai eu de la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je l'approuvais dans ma prison, quand le ciel se colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma cellule. Parce qu'aussi bien j'aurais pu entendre des pas et mon cœur aurait pu éclater. Même si la moindre glissement me jetait à la porte, même si l'oreille collait au bois, j'attendais perdument jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration, effrayée de la trouver rauque et si pareille au râle d'un chien. Pendant tout le jour, il y avait mon pourvoi et je crois que j'ai tiré le meilleur parti de cette idée. Je calculais mes effets, j'obtenais de mes réflexions le meilleur rendement. Je prenais toujours la plus mauvaise supposition. Mon pourvoi était rejeté. Eh bien, je mourrais donc. Plutôt que d'autres, c'était évident. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu, puisque naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d'années. Rien n'était plus clair en somme. C'est toujours moi qui mourrai, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. À ce moment, ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement, c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir. Mais je n'avais qu'à l'étouffer en imaginant ce que seraient mes pensées dans 20 ans, quand il me faudrait quand même en venir là. Du moment qu'on meurt, comment et quand, cela importe peu, c'était évident. Donc, et le difficile, c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce « donc » représentait de raisonnement. Donc, je devais accepter le rejet de mon pourvoi. À ce moment seulement, j'avais pour ainsi dire le droit, je me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse. J'étais gracié. L'ennuyeux, c'est qu'il fallait rendre moins fougueux cet élan du sang et du corps qui me piquait les yeux d'une joie insensée. Il fallait que je m'applique à réduire ce cri, à le raisonner. Il fallait que je sois naturel, même dans cette hypothèse, pour rendre plus plausible ma résignation dans la première. Et quand j'avais réussi, j'avais gagné une heure de calme. Cela tout de même était à considérer. C'est à un semblable moment que j'ai refusé une fois de plus de recevoir l'aumônier. J'étais étendu et je devinais l'approche du soir d'été à une certaine blondeur du ciel. Je venais de rejeter mon pourvoi et je pouvais sentir les ondes de mon sang circuler régulièrement en moi. Je n'avais pas besoin de voir l'aumônier. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à Marie. Il y avait de longs jours qu'elle ne m'écrivait plus. Ce soir-là, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'elle s'était peut-être fatiguée d'être la maîtresse d'un condamné à mort. L'idée m'est venue aussi qu'elle était peut-être malade ou morte. C'est dans l'ordre des choses. Comment l'aurais-je su, puisqu'en dehors de nos deux corps maintenant séparés, rien ne nous liait et ne nous appelait l'un à l'autre. C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Il s'en est aperçu et m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite tout amicale, qui n'avait rien à voir avec mon pourvoi dont il ne savait rien. Il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre près de lui. J'ai refusé. Je lui ai trouvé tout de même un air très doux. Il est resté un moment assis, les avant-bras sur les genoux, la tête baissée à regarder ses mains. Elles étaient fines et musclées. Elles me faisaient penser à deux bêtes agiles. Il les a frottées lentement l'une contre l'autre. Puis il est resté ainsi, la tête toujours baissée, pendant si longtemps que j'ai eu l'impression un instant que je l'avais oublié. Mais il a relevé brusquement la tête et m'a regardé en face. « Pourquoi, m'a-t-il dit, refusez-vous mes visites ?» J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûr. Et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander. Cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses. Presque sans avoir l'air de me parler, il a observé qu'on se croyait sûr, quelquefois, et en réalité, on ne l'était pas. Je ne disais rien. Il m'a regardé et m'a interrogé. « Qu'en pensez-vous ? » J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Il a détourné les yeux et toujours sans changer de position m'a demandé si je ne parlais pas ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespéré. J'avais seulement peur, c'était bien naturel. « Dieu vous aiderait alors, a-t-il remarqué, tout ce que j'ai connu dans votre cas se retourner vers lui. » J'ai reconnu que c'était leur droit. Cela prouvait aussi qu'ils en avaient le temps. Quant à moi, je ne voulais pas qu'on m'aidât et justement le temps me manquait pour m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas. À ce moment, ses mains ont eu un geste d'agacement, mais il s'est redressé et a arrangé les plis de sa robe. Quand il a eu fini, il s'est adressé à moi en m'appelant « mon ami ». S'il me parlait ainsi, ce n'était pas parce que j'étais condamné à mort. À son avis, nous étions tous condamnés à mort. Mais je l'ai interrompu en lui disant que ce n'était pas la même chose et que d'ailleurs, ce ne pouvait être en aucun cas une consolation. « Certes, a-t-il approuvé, mais vous mourrez plus tard si vous ne mourrez pas aujourd'hui. La même question se posera alors. Comment aborderez-vous cette terrible épreuve ?» J'ai répondu que je l'aborderai exactement comme je l'abordais en ce moment. Il s'est levé à ce mot et m'a regardé droit dans les yeux. C'est un jeu que je connaissais bien. Je m'en amusais souvent avec Emmanuel ou Céleste. Et en général, ils détournaient leurs yeux. L'aumônier aussi connaissait bien ce jeu. Je l'ai tout de suite compris. Son regard ne tremblait pas. Et sa voix non plus n'a pas tremblé quand il m'a dit « N'avez-vous donc aucun espoir et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ?»« Oui, ai-je répondu. » Alors il a baissé la tête et s'est rassis. Il m'a dit qu'il me plaignait. Il jugeait cela impossible à supporter pour un homme. Moi, j'ai seulement senti qu'il commençait à m'ennuyer. Je me suis détourné à mon tour. Et je suis allé à la lucarne. Je m'appuyais de l'épaule contre le mur. Sans bien le suivre, j'ai entendu qu'il recommençait à m'interroger. Il parlait d'une voix inquiète, pressante. J'ai compris qu'il était ému. Je l'ai mieux écouté. Il me disait sa certitude que mon pourvoi serait accepté. et je portais le poids d'un péché dont il fallait me débarrasser. Selon lui, la justice des hommes n'était rien, et la justice de Dieu, tout. J'ai remarqué que c'était la première qui m'avait condamné. Il m'a répondu qu'elle n'avait pas pour autant lavé mon péché, et je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'était un péché. On m'avait seulement appris que j'étais un coupable. J'étais coupable, je payais. On ne pouvait rien me demander de plus. À ce moment, il s'est levé à nouveau, et j'ai pensé que dans cette cellule si étroite, s'il voulait remuer, il n'avait pas le choix. Il fallait s'asseoir ou se lever. J'avais les yeux fixés au sol, il a fait un pas vers moi, s'est arrêté comme s'il n'osait avancer. Il regardait le ciel à travers les barreaux. « Vous vous trompez, mon fils, m'a-t-il dit. On pourrait vous demander plus. On vous le demandera peut-être. Et quoi donc? On pourrait vous demander de voir. Voir quoi? » Le prêtre a regardé tout autour de lui, il a répondu d'une voix que j'ai trouvée soudain très lasse. Toutes ces pierres suent la douleur, je le sais. Je ne les ai jamais regardées sans angoisse, mais du fond du cœur, je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Je me suis un peu animé. J'ai dit qu'il y avait des mois que je regardais ces murailles. Il n'y avait rien ni personne que je connusse mieux au monde. Peut-être, il y a bien longtemps, il y avait cherché un visage. Mais ce visage avait la couleur du soleil et la flamme du désir. C'était celui de Marie. Je l'avais cherché en vain. Maintenant, c'est fini. Et dans tous les cas, je n'avais rien vu surgir de cette sueur de pierre. L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse. J'étais maintenant complètement adossé à la muraille et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus et m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. Non, ai-je répondu. Il s'est retourné à marcher vers le mur sur lequel il a passé sa main lentement. « Aimez-vous donc cette terre à ce point ? » a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné, sa présence me pesait, m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser. Quand il s'est écrié tout d'un coup, avec une sorte d'éclat, en se retournant vers moi, « Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. » Je lui ai répondu que naturellement, mais cela n'avait plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite, d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté. Il voulait savoir comment jouer cette autre vie. Alors je lui ai crié « Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci !» Et aussitôt je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu, mais je me suis avancé vers lui. Et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi j'appelais monsieur et non pas mon père. Cela m'a énervé, je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il était avec les autres. « Non, mon fils, a-t-il dit en mettant la main sur mon épaule, je suis avec vous, mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier, je l'ai insulté, et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane et je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas ? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie, puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela, mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela, et je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien, rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi et du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues. Et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère, et que m'importait son Dieu, et les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il donc, tout le monde était privilégié, il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour, lui aussi on le condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Et qu'importait que Raymond fût mon copain autant que Céleste, qui valait mieux que lui. Qu'importait que Marie donnât aujourd'hui sa bouche à un nouveau meursault. Comprenait-il donc se condamner et que du fond de mon avenir, j'étouffais en criant tout ceci. Mais déjà on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui cependant les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. la merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris d'un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée, prête à tout revivre, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. À mes yeux, et après tant et tant de lectures passionnées de l'étranger, Meursault représente l'antéchrist. Le mot n'est pas de moi, le juge d'instruction le lui dit à Meursault au cours d'un des interrogatoires. Il est l'antéchrist. Suivez la fin pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine. Le Christ lui promettait une autre vie, un au-delà de la vie terrestre. Et parce qu'il annonçait cette vérité, il a été supplicié, entouré par des cris de haine. Pour Meursault, son message est qu'il faut vivre intensément cette vie car il n'y a pas d'au-delà. Et parce que toute sa vie a été l'exemple de cette vérité, il va être supplicié et il souhaite qu'on l'accueille avec des cris de haine. Et ainsi, la boucle est bouclée. Et ainsi, Meursault apparaît vraiment comme un homme, un héros de notre temps, c'est-à-dire un homme d'un siècle qui a vidé le ciel de tous ses espoirs.
Emmanuel Robles a lu ce soir quelques pages de L'étranger d'Albert Camus. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
D'Albert Camus, Emmanuel Robles, il est tout naturel que nous passions, si j'ose dire, à Dostoïevski. En somme, on passerait du procès de Meursault au procès de Raskolnikov, si vous avez choisi, comme je le vois, Crime et châtiment.
C'est exact, et je puis révéler que, bon, ce n'est pas une révélation, que Camus avait une immense admiration pour Dostoïevski. Il y a d'ailleurs consacré un court essai que l'on trouve dans l'édition de la Pléiade, et cette connaissance de Dostoïevski est liée tout de même, cette admiration et cette connaissance sont liées à tout de même des inclinations de Camus. Il y a d'abord ce mystère de l'homme qui a toujours tenté Camus comme il a toujours tenté Dostoïevski. Après tout, c'est Dostoïevski qui a écrit cette phrase très camusienne à mon sens. L'homme est un mystère, il faut le percer. Et si tu passes toute une vie à cela, ne dis pas que tu as perdu ton temps. J'étudie ce mystère car je veux être un homme. La forme ne serait pas celle de Camus, mais la pensée, oui. Eh bien, Crime et châtiment, je l'ai lu très jeune. Et c'est un livre qui a laissé en moi une semence qui n'a jamais cessé de refleurir. C'est un de ces livres, comme Don Quichotte d'ailleurs, qui porte un poids de réflexion qui, au fil des années, est devenu de plus en plus lourd. Bien sûr, tout jeune Et encore adolescent, ce qui m'intéressait, c'était uniquement l'aventure policière. Je n'ai vu là qu'une série noire avant la lettre. Et puis, peu à peu, et à force de le relire, et je le relis très souvent, eh bien, je me suis aperçu que Dostoïevski avait raison, il y a le mystère Raskolnikov. Rodion Romanovitch Raskolnikov est un garçon qui tue pour certaines raisons, qui ne sont pas du tout les raisons de Meursault, mais elles sont tout de même, dans le tréfonds d'une conscience humaine, elles sont tout de même une part de ce mystère humain qui nous fascine. L'un des passages essentiels, parmi beaucoup d'autres, c'est le moment du crime. Cette pente vers le crime m'intéresse parce que, à chaque seconde du crime, Raskolnikov pouvait se reprendre et le refuser. Et la page est saisissante, je vais vous la lire. Donc, vous le savez, Raskolnikov va venir voler la vieille usurière et il se présente chez elle sous un prétexte. Le voici devant la porte. La porte, comme l'autre fois, s'entrebâilla doucement et, de nouveau, deux yeux aigus et méfiants se posèrent sur lui du fond de l'obscurité. À ce moment, Raskolnikov perdit son sang-froid et manqua de tout compromettre par sa faute. Cependant, craignant que la vieille ne prît peur de se trouver seule avec lui et ne comptant point que sa mine et son extérieur fussent à même de la rassurer, il saisit la porte et la tira à lui pour que la vieille ne s'avisât pas de la refermer. Elle ne ramena pas la porte de son côté, mais elle ne lâcha pas non plus la poignée et la serrure, si bien qu'il faillit l'entraîner en même temps que la porte sur le palier. Voyant qu'elle restait debout sur le seuil pour lui barrer le passage, il marcha droit sur elle. Saisie d'effroi, elle fit un saut en arrière, voulut dire quelque chose, mais sembla ne pas pouvoir, et il le regarda de tous ses yeux. « Bonjour, Alyona Ivanovna, » dit-il de l'air le plus dégagé qu'il put, mais sa voix, qui ne lui obéissait plus, était entrecoupée et tremblante. « Je vous apporte l'objet, mais allons plutôt là-bas, vers la lumière. » Et la repoussant d'un geste brusque, il pénétra dans la chambre sans y être invité. La vieille courut après lui et sa langue se délia. « Mon Dieu, mais que voulez-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il vous faut ?»« Voyons, voyons, Alyona Ivanovna, je suis une connaissance. Alors, Raskolnikov, tenez, je vous apporte le gage que je vous avais promis derrière moi. » Et il lui tendit le gage. La vieille allait l'examiner, mais aussitôt, elle revint planter ses yeux droit dans les yeux de l'intrus. Elle le considérait avec attention d'un air mauvais et soupçonneux. Une minute s'écoula, il crut même apercevoir dans le regard de la vieille une sorte d'ironie, comme si déjà elle avait tout deviné. Il sentit qu'il perdait la tête, qu'il avait presque peur, et que si le mutisme de la vieille devait se prolonger encore une demi-minute, il allait prendre la fuite. « Mais qu'avez-vous donc à me regarder, comme si vous ne me reconnaissiez pas ?» articula-t-il avec méchanceté lui aussi. « Prenez-le, si vous en voulez, sinon j'irai m'adresser à d'autres. Je n'ai pas de temps à perdre. » Il prononça ces mots sans y avoir songé, comme s'ils lui eussent d'eux-mêmes échappé tout à coup. La vieille se ravisa. Évidemment, le ton du visiteur l'encourageait. « Mais, mon ami, pourquoi comme cela, tout à coup? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle en regardant le gage. « Un porte-cigarette en argent, voyons. Je vous en avais parlé la fois passée. » Elle tendit la main. « Comme vous êtes pâle, mais vos mains tremblent. « Ah, vous êtes malade, hein ?»« J'ai la fièvre, » répondit-il d'une voix saccadée. « Comment ne pas être pâle quand on n'a pas de quoi manger ?» ajouta-t-il avec difficulté. Ses forces l'abandonnaient de nouveau, mais la réponse paraissait vraisemblable et la vieille prit le gage. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle en regardant une fois encore fixement Raskolnikov et en soupesant l'objet dans sa main. « Ben, l'objet, le porte-cigarette. Le porte-cigarette en argent, regardez. » On dirait que ce n'est pas en argent. Et il est joliment bien enveloppé. » Tout en s'efforçant de défaire le petit paquet, elle s'était approchée de la fenêtre du côté de la lumière. Toutes les fenêtres chez elle étaient closes, malgré l'étouffante chaleur. Elle avait quitté Raskolnikov pour quelques instants et lui tournait le dos. Il déboutonna son paletot et dégagea la hache du nœud coulant, mais sans la retirer tout à fait. Il la retint seulement de sa main droite sous son vêtement. Une grande faiblesse envahit ses bras. Lui-même sentait que d'instant en instant, il s'engourdissait et devenait lourd comme du plomb. Il avait peur de laisser tomber la hache. Tout à coup, ce fut comme si la tête lui tournait. Eh bien, vrai, quelle idée de faire un pareil paquet, s'écria la vieille qui esquissa un mouvement du côté de Raskolnikov. Il n'y avait plus un moment à perdre. Il retira complètement la hache de dessous son paletot, la brandit de deux mains, sans se rendre compte de ce qu'il faisait et presque sans effort, d'un geste machinal, la laissa retomber sur la tête. Il était à bout de force. Toutefois, à peine eut-il laissé s'abattre la hache, que ses forces lui revinrent. Comme toujours, la vieille avait la tête nue, ses rares cheveux blancs, épars et clairsemés, gras et huileux, ainsi qu'à l'ordinaire, tressés en queue de rat et fixés par un bout de peigne, formaient un chignon sur la nuque. Le coup l'atteignit juste au sommet de la tête, ce à quoi contribua la petite taille de la victime. Dans l'une de ses mains, elle continuait à tenir le gage. Alors, de toutes ses forces, il la frappa une seconde fois, une troisième fois, toujours du revers de la hache et toujours au sommet de la tête. Le sang jaillit comme d'un verre que l'on renverse et le corps s'abattit en avant sur le plancher. Lui se recula pour en faciliter la chute et se pencha vers son visage. Elle était morte. Les prunelles dilatées semblaient vouloir sortir de leurs orbites, le front et le visage grimacés dans les convulsions de l'agonie. Il déposa la hache sur le plancher à côté de la morte et se mit aussitôt à lui fouiller les poches, s'efforçant de ne pas se tacher les mains au sang qui ruisselait. Il commença par la poche droite, celle d'où la dernière fois elle avait tiré ses clés. Il gardait toute sa lucidité d'esprit, il n'éprouvait plus ni étourdissement ni vertige. Seules ses mains tremblaient encore. Plus tard, il se rappela qu'il avait été très attentif, très prudent, qu'il avait bien pris garde à ne pas se salir. Il retira aussitôt les clés, de même qu'alors toutes étaient réunies en trousseau par le moyen d'un seul anneau d'acier. Dès qu'il les eut en sa possession, il courut vers la chambre à coucher. C'était une pièce fort petite où se dressait une grande vitrine remplie d'icônes. En face, contre le mur, on voyait un grand lit très propre, avec une couverture en soie doublée de ouates et faite de pièces et de morceaux. Contre la troisième cloison était la commode. Chose étrange, à peine avait-il commencé d'introduire une des clés dans la serrure de ce meuble, à peine eut-il entendu le grincement du fer, qu'une sorte de frisson parcourut tout son être. L'envie, tout à coup, le reprit d'abandonner sa besogne et de s'en aller. Mais cela ne dura qu'un instant, il était trop tard pour s'en aller. Il ricanait sur lui-même quand, soudain, une autre pensée angoissante s'abattit sur son crâne. Il lui sembla tout à coup que la vieille pourrait bien encore être vivante, qu'elle pourrait bien revenir à elle. Laissant là clés et commodes, il revint auprès du cadavre, saisit la hache, la brandit une fois encore au-dessus de la vieille, mais il ne la laissa pas retomber. Pas de doute, la vieille était bien morte. Courbé vers elle, et comme il l'examinait de plus près, il vit distinctement que le crâne était fracassé et la calotte même légèrement déviée. Il eut envie de toucher du doigt, mais il se retint. La vue suffisait. Une flaque de sang s'était formée entre-temps sur le plancher. Tout à coup, il aperçut un cordon au cou de la vieille, tira dessus. Mais le cordon était solide, ne se brisa point. De plus, il était imbibé de sang. Il essaya alors de l'enlever en le faisant glisser le long de la poitrine, mais un obstacle gênait le cordon. Pris d'impatience, il allait encore une fois lever la hache pour trancher d'un seul coup le cordon sur le corps, mais il n'osa pas, et avec difficulté, souillant de sang et la hache de ses mains, après 2 minutes d'effort, il réussit à courber le cordon sans entailler le corps de la morte. Puis il le retira. Ah ! Il ne s'était pas trompé, une bourse ! 2 croix étaient suspendues à ce cordon, l'une en bois de cyprès, l'autre en cuivre. Outre cela, une petite image en émail. En même temps que les objets, il y avait un vieux porte-monnaie crasseux en peau de daim à fermeture d'acier. Le porte-monnaie paraissait bourré. Raskolnikov l'empocha sans examiner le contenu. Il jeta les croix sur la vieille et, prenant cette fois la hache avec lui, retourna en courant vers la chambre à coucher. Il se hâta avec une ardeur fébrile, saisit les clés et recommença de s'escrimer, mais sans succès. Les clés ne s'adaptaient pas à la serrure. Ce n'était pas que ses mains fussent agitées d'un tremblement excessif, mais il ne faisait que se tromper. Il voyait bien, par exemple, que telle clé n'était pas la bonne, qu'elle n'allait pas, et cependant, il continua à se démener. Tout à coup, il lui vint à la mémoire, et il comprit que cette grosse clé à paneton dentelé, qui en ce moment ballottait avec les petites, ne devait nullement se rapporter à la commode, mais à un coffre quelconque, où peut-être toutes les valeurs se trouvaient renfermées. Abandonnant la commode, il chercha aussitôt sous le lit, sachant que les vieilles ont coutume de fourrer leurs coffres à cet endroit. Effectivement, il y avait là un coffre d'assez grande dimension, au couvercle bombé, tendu de maroquin rouge, constellé de clous d'acier. La clé dentelée allait parfaitement à la serrure. En premier lieu, sous un drap blanc, reposait une pelisse en peau de lièvre, à garniture rouge. Au-dessous se trouvait une robe de soie, puis un châle. Et, tout au fond, il semblait n'y avoir que des chiffons. D'abord, il commença par essuyer sur la garniture rouge ses mains tachées de sang. Puisque c'est rouge, le sang se verra moins sur du rouge, songea-t-il, quand tout à coup il se ravisa. « Seigneur, est-ce que je perds l'esprit ?» se dit-il avec effroi. Mais à peine s'était-il mis à fourrager parmi ses chiffons qu'une montre en or glissa de dessous la fourrure. Il s'empressa de retourner le contenu du coffre. En effet, parmi les chiffons se trouvaient des objets en or, qui tous, probablement, étaient des gages confiés à Aliona Ivanovna et que leur possesseur n'avait pas récupérés. Des bracelets, des boucles d'oreilles, des épingles de cravate. Les uns étaient dans leurs écrins, les autres soyeusement enveloppés dans du papier de journal plié et double et noué avec des ficelles. Sans plus tarder, il en bourra les poches de son pantalon, sans trier ni ouvrir paquet écrin. Mais il n'eut pas le temps d'opérer une longue rafle. Soudain, il entendit des pas dans la chambre où gisait la vieille. Il s'arrêta, figé d'une épouvante mortelle. Mais déjà tout bruit s'était tu, et sans doute avait-il été le jouet d'une oscillation. Tout à coup, il perçut distinctement un léger cri, ou plutôt une sorte de gémissement sourd et entrecoupé. Au bout d'une ou deux minutes, pesa de nouveau un profond silence. Il se tenait à croppeton auprès du coffre et attendait, cherchant avec peine à reprendre sa respiration. Mais soudain, il bondit, saisit la hache et s'élança hors de la chambre à coucher. Au milieu de la pièce, Elisabeth, debout, tenant un grand paquet dans les mains, contemplait avec stupéfaction sa sœur morte. Elle était pâle comme un linge et semblait n'avoir pas la force de crier. En le voyant accourir, elle se mit à trembler comme une feuille d'un frisson bref et saccadé, tandis qu'un spasme convulsif parcourait son visage. Elle leva les bras. Fut pour ouvrir la bouche, toutefois ne poussa pas un cri, mais reculant avec lenteur, elle battit en retraite devant Raskolnikov, cherchant à se blottir dans un coin. En même temps, elle le regardait, toujours muette et comme si le souffle lui manquait pour crier. Il s'élança sur elle en brandissant sa hache. Les lèvres de la pauvre femme se contractèrent douloureusement, comme celles des petits-enfants lorsqu'ils sont pris de peur à la vue de quelque chose qui les effraie et sont sur le point de crier. Et si simple était cette malheureuse qu'elle n'étendit même pas le bras pour se protéger la figure, bien que ce fût le geste qu'elle aurait dû faire le plus naturellement à cette minute où la hache est enlevée droit sur son visage. Elle souleva à peine son bras gauche assez loin et l'étendit lentement vers Raskolnikov ainsi que pour l'écarter. Le coup l'atteignit en plein crâne, du côté coupant, et fendit net toute la partie supérieure du front, presque jusqu'au sarcipule. Elle s'effondra sur le plancher. L'esprit égaré, Raskolnikov s'empara du paquet d'Elisabeth, puis le rejeta et courut vers l'antichambre. C'est un récit qui ensuite va nous lancer dans une investigation d'âme des plus célèbres, les états d'âme de Meursault dans sa prison et les états d'âme de Raskolnikov aux prises avec Porphyre, l'inspecteur inquisiteur, tout cela, nous le connaissons. Et cependant, à chaque détour de cette investigation, dans un livre comme dans l'autre, nous retrouvons ce qui nous préoccupe, ce qui nous importe au plus haut degré. C'est l'obscur cheminement de l'âme humaine. Ce sont ces mystères si particuliers aux hommes en proie. Eh bien, j'ai trouvé dans Raskolnikov un certain nombre de points communs avec Meursault, et c'est pourquoi il m'arrive fréquemment, et le même soir, de passer de l'un à l'autre pour les confronter.
Emmanuel Robles a lu ce soir un extrait de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Je vais vous lire un premier passage. Il s'agit du moment où toute la petite société des Américains de Paris se retrouve à Pampelune. Je m'éveillais avec mal à la tête et le bruit des orphéons qui passaient dans la rue. Je me rappelais que j'avais promis d'amener Edna, l'amie de Bill, voir les taureaux traverser la ville pour se rendre aux arènes. Je m'habillais et descendis l'escalier, puis je sortis dans la fraîcheur du petit matin. Des gens traversaient la place, se hâtant vers les arènes. Au bout de la place, deux files de personnes stationnaient devant les guichets des billets. Ils attendaient toujours qu'on commençât la vente à 7 heures. Je me hâtais de traverser la rue pour entrer au café. Le garçon me dit que mes amis étaient venus puis étaient repartis. Combien étaient-ils ? 2 messieurs et une dame. Tout allait bien. Bill et Milk étaient donc avec Edna. Elle avait eu peur hier soir qu'il ne tombasse ivre mort. C'est pourquoi nous avions convenu que j'irais la prendre et je bus un café et me hâtais comme les autres vers les arènes. Je me sentais tout à fait d'aplomb. Et il n'y avait que ce fichu mal à la tête. Tout me semblait aigu et clair et la ville dégageait une odeur matinale. L'espace qui séparait la ville des arènes était boueux. La foule s'était massée le long de la barrière qui aboutissait aux arènes et les balcons extérieurs au sommet des mêmes arènes étaient noirs de monde. J'entendis la fusée et je vis que je n'aurais pas le temps d'arriver pour voir l'entrée des taureaux. Je me faufilai donc à travers la foule jusqu'à la barrière et je fus pressé tout contre les planches de la palissade. Entre les deux barrières, la police dégageait le passage. Les gens, tranquillement ou au pas de gymnastique, se dirigeaient vers les arènes, puis quelques personnes arrivèrent en courant. Un agent glissa et tomba. Les agents le saisirent et le mirent à l'abri derrière la barrière. La foule maintenant courait très vite. Un grand cri s'éleva et, passant ma tête entre deux barreaux, je vis les taureaux qui, juste à ce moment, débouchaient de la rue dans le long couloir. Ils allaient vite. Ils gagnaient du terrain sur la foule. C'est alors que notre ivrogne se détacha de la barrière, une blouse à la main. Il voulait faire des passes de cap aux taureaux. Les deux agents se précipitèrent et lui mirent la main au collet. L'un d'eux le frappa de sa matraque et ils le tirèrent jusqu'à la barrière contre laquelle ils s'aplatirent tant que passèrent l'arrière-garde de la foule et les taureaux. Il y avait tant de gens qui couraient en tête que la masse sans cesse grossissante dut ralentir au moment de franchir la grille pour pénétrer dans les arènes et, comme les taureaux passaient, galopant tous ensemble, lourds, les flancs plaqués debout, balançant leurs cornes, l'un d'eux fit un bond en avant et frappa un des coureurs dans le dos, le soulevant en l'air. L'homme, les bras allongés de chaque côté du corps, renversa la tête quand la corne pénétra et le taureau l'ayant soulevé, le laissa bientôt retomber. Le taureau avisa un autre homme qui courait devant lui, mais l'homme disparut. Ayant franchi la grille, se trouva maintenant dans l'arène. On referma le portail rouge. Les gens des balcons extérieurs se précipitèrent vers l'intérieur. Il y eut une clameur, suivie d'une seconde clameur. L'homme qui avait été blessé gisait à plat ventre dans la boue piétinée. Des gens sautèrent par-dessus la barrière et je ne pus voir le blessé parce que la foule était trop dense autour de lui. Des cris montaient de l'intérieur des arènes. Chaque cri signifiait qu'un taureau fonçait dans la foule. Par l'intensité de la clameur, on pouvait juger de la gravité de l'événement. Puis, la fusée s'éleva, annonçant que les bœufs avaient fait sortir les... Puis, la fusée s'éleva annonçant que les bœufs avaient fait sortir les taureaux de l'arène et les avaient conduits dans les corrales. Je quittai la barrière, repris le chemin de la ville. De retour en ville, j'allai au café prendre un autre café et des toasts beurrés. Les garçons balayaient le café et suivaient les tables. L'un d'eux s'avança pour prendre ma commande. « S'est-il passé quelque chose à l'encierro ?»« Ah, je n'ai pas tout vu. »« Mais on dit qu'un homme a été gravement corrido. »« Ah, où ?» Ici, et je posais une main sur mes reins et l'autre sur ma poitrine comme si la corne avait traversé de part en part. Le garçon hocha la tête et balaya les croûtes de pain d'un coup de serviette. « Ah, gravement corrido, dit-il. Tout ça par sport. Ha, tout ça par amusement. » Il s'éloigna et revint avec sa cafetière et son pot au lait à longs manches. Il versa le lait, puis le café. Des deux longs becs, les deux jets tombèrent dans la grande tasse. Le garçon branla la tête. « Oui, gravement corrido dans le dos, dit-il. Un grand coup de corne. Et tout ça par amusement, rien que par amusement. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ?»« Je ne sais pas. Eh oui, par amusement. Oui, vous vous rendez bien compte. Vous n'êtes pas un aficionado ?»« Moi ? Vous voulez dire qu'est-ce que c'est que les taureaux ?»« Ben, des animaux, des brutes. » Il se leva et se posa la main sur les reins, en plein dans le dos, une cornada en plein dans le dos, et par amusement, hein, vous comprenez? Il secoua la tête et s'éloigna en emportant ses cafetières. Deux hommes passaient dans la rue. Le garçon les appela. Ils avaient l'air très graves. L'un d'eux remua la tête. « Muerto !» cria-t-il. Le garçon de nouveau brin à la tête. Les deux hommes s'éloignèrent. Ils allaient faire une course. Le garçon s'approcha de Matal. « Vous avez entendu ?»« Muerto !»« Mort !»« Il est mort !»« Transpercé par la corde !» Tout ça histoire de s'amuser un peu, le matin, hein ?« Es muy flamenco !» Oui, c'est triste. « Oh, pas pour moi, non !»« Pas d'amusement pour moi dans ces choses-là, » dit le garçon. Plus tard, dans la journée, nous apprîmes que l'homme qui avait été tué s'appelait Vicente Girones et qu'il venait des environs de Tafalla. Au cours de la soirée précédente, je vous ai lu un passage du Soleil se lève aussi, très significatif à mon sens, puisqu'il montrait ce goût du jeu avec la mort qu'ont les Espagnols, cette manière aussi, cet art d'Hemingway pour le montrer à travers un dialogue et sans jamais le commenter, sans jamais rien de didactique. À mon avis, c'est du grand art. Eh bien, aujourd'hui, je vais lire et commenter un autre passage du Soleil se lève aussi. Quand la fiesta, au comble de l'agitation, se porta vers les arènes, nous suivîmes la foule. Brest... Je recommence. Quand la fiesta, au comble de l'agitation, se porta vers les arènes, nous suivîmes... Ah, décidément. Quand la fiesta, au comble de l'agitation, se porta vers les arènes, nous suivîmes la foule. Brett s'assit au premier rang entre Bill et moi. Droit au-dessous de nous se trouvait le callejón, le couloir entre les gradins et la palissade rouge de la barrera. Derrière nous, les gradins de ciment se remplissaient. Devant nous, par-delà la barrière rouge, le sable de l'arène s'étendait jaune et finement ratissé. La pluie semblait l'avoir un peu alourdi, mais il était sec, ferme, lisse au soleil. Les garçons des stocks et les employés des arènes arrivèrent dans le callejón portant sur leurs épaules des paniers d'osier pleins de capes de combat et de muletas. Elles étaient tachées de sang et tassées, pliées, serrées dans les paniers. Les garçons ouvrirent les lourdes boîtes en cuir et les poignets enveloppés de rouge apparurent quand ils appuyèrent les boîtes contre la barrière. Ils déployèrent la flanelle rouge à taches sombres des muletas. Ils fixèrent des baguettes pour faire tendre l'étoffe et donner au matador quelque chose à tenir. Brett surveillait tout cela. Elle était absorbée par les détails professionnels. « Mais il a son nom imprimé !» Sur toutes ces capes, regarde. Et ces muletas aussi. Pourquoi les appelle-t-on muletas, dit-elle. Je ne sais pas. Mais je me demande si on les lave quelquefois. Crois pas. Ça risquerait de faire passer la couleur. Le sang doit les raidir, dit Bill. C'est drôle, dit Brett, comme on devient indifférent au sang. En bas, dans les trois couloirs, les garçons des stocks achevaient les préparatifs. Toutes les places étaient prises. En haut, dans les loges, étaient occupées. Il y avait une place vide, sauf dans la loge du président. On attendait son arrivée pour commencer la course. Par-delà le sable uni, sur la haute voûte qui conduisait au corral, les toréadors debout, les bras enroulés dans leurs capes, causaient, en attendant le moment de défiler dans l'arène. Brett les regardait avec ses jumelles. « Tiens, veux-tu les regarder ?» À mon tour, je pris les jumelles et vis les trois matadors. Romero était au milieu, Belmonte à gauche et Martial à droite. Leurs gens étaient derrière eux ainsi que les banderilleros. Au fond du couloir et à l'entrée du corral, j'aperçus les picadors. Romero portait un costume noir, son tricorne était abaissé sur ses yeux. Je ne pouvais pas bien voir sa figure sous le chapeau, mais elle me parut sérieusement meurtrie. J'ouvris parenthèse, c'est parce que Romero s'est battu la veille avec l'amant de l'adi Brett, un certain Robert Cohn. Il regardait droit devant lui. Martial fumait une cigarette avec circonspection, la gardant sans cesse à la main. Belmonte regardait en face, le visage d'une pâleur jaunâtre, sa longue mâchoire de loup projetée en avant. Il regardait dans le vague. Ni lui ni Romero ne semblaient avoir rien de commun avec les autres. Ah, ils étaient seuls. Le président entra. Les applaudissements éclatèrent dans la grande tribune au-dessous de nous et je repassai les jumelles à Brett. On applaudit. La musique commença. Brett regardait avec les jumelles. Non, non, tiens, prends-les, garde-les, dit-elle. À travers les jumelles, je vis Belmonte parler à Romero. Martial se redressa, jeta sa cigarette, puis, le regard fixé droit devant eux, la tête haute, balançant leurs bras libres, les trois matadors se mirent en marche. Derrière eux, tout le défilé se déploya. Chacun marchait au pas, cap roulé, balançant le bras libre. Ensuite venaient les picadors, le pic en l'air, comme une lance. Puis les deux attelages de mules et les employés qui fermaient la marche. Devant la loge présidentielle, les matadors, le chapeau sur la tête, saluèrent en s'inclinant. Puis ils s'approchèrent de la barrera, au-dessous de nous. Pedro Romero enleva sa lourde cape brodée d'or et la passa par-dessus la barrière à son garde-stock. Il lui dit quelque chose, et maintenant que Romero était tout près de nous, nous pouvions distinguer ses lèvres enflées et ses deux yeux meurtris. Son visage tuméfié avait changé de couleur. Le garde-stock prit la cape, leva les yeux vers Brett et s'approchant de nous, il lui tendit la cape. « Déploie-la devant toi, » dis-je. Brett se pencha, la cape était lourde et toute raide d'or soyeux. Le garde-stock se retourna, secoua la tête et dit quelque chose. Un homme assis près de moi se pencha vers Brett. « Il ne veut pas que vous la déployiez, » dit-il. « Il faut la plier et la garder sur vos genoux. » Alors Brett plia la lourde cape. Romero, lui, ne nous regardait pas. Il parlait à Belmonte. Belmonte avait donné sa cape d'apparat à des amis. Il les regarda et leur sourit de son sourire de loup qui n'affectait que la bouche. Romero se pencha par-dessus la barrera et demanda la cruche d'eau. Le garde-stock l'emporta et Romero versa de l'eau sur la percale de sa cape de combat. Puis, avec son pied chaussé d'un escarpin, il en frotta les plis inférieurs dans le sable. « Pourquoi fait-il cela ?» demanda Brett. « Pour lui donner du poids, dans le vent. »« Oh, il a la figure bien abîmée, » dit Bill. « Mais il n'est pas bien du tout, » dit Brett. « Il devrait être au lit. »
Emmanuel Robles a lu ce soir un extrait du roman d'Hemingway, Le soleil se lève aussi. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Encore un élément, Emmanuel Robles, qui est nécessaire pour cette espèce de portrait de vous que nous tentons de faire avec le livre de chevet. Nous avons parlé de Camus, nous avons parlé de l'Espagne, nous avons parlé de Garcia Lorca. Mais je crois qu'il y a tout de même un lien qui existe entre vous et Hemingway, et en particulier le Hemingway du Soleil se lève aussi.
Oui, je dois beaucoup à Hemingway, comme je dois beaucoup à Cervantes. Et certainement pas pour les mêmes raisons. J'ai rencontré Hemingway quand je faisais mes études à Alger, et je ne sais plus qui m'avait conseillé de lire Hemingway. Hemingway m'a appris ce qu'est un dialogue, ce qu'est l'économie dans un dialogue, tout dire en peu de mots, suggérer. Il m'a appris comment la description doit s'insérer. Enfin, du point de vue technique, je lui dois beaucoup. Vous me direz que cela ne suffirait pas à faire de Le soleil se lève aussi mon livre de chevet. Pourquoi celui-là entre tous les autres, puisque tous les autres procèdent des mêmes qualités techniques que je viens de décrire rapidement? Eh bien, c'est que Le soleil se lève aussi est un livre qui contient une série de personnages dans un désarroi que personnellement j'ai connu. N'oubliez pas, Le soleil se lève aussi se situe après la Première Guerre mondiale et nous montre une petite société d'Américains perdue dans le grand Paris de l'après-guerre et, je reprends le mot, dans ce désarroi que l'après-guerre a apporté à beaucoup de gens. Hemingway avait fait la guerre en Italie et avait été blessé sur la Piave. Cette série de personnages m'importe même s'ils n'ont pas, je dois le dire, la profondeur d'analyse qu'apporte Dostoïevski pour son Raskolnikov, Meursault, le héros de Camus, ou Don Quichotte, l'héros de Cervantes. S'ils n'ont pas cette même profondeur, ils ont du moins des traits qui ressemblent un peu à ceux que j'ai reconnus en moi lorsque, après 1945, je me suis trouvé moi-même dans le grand Paris de l'après-guerre. C'est-à-dire un certain désarroi, sortir d'une société comme la société militaire, en guerre, avec l'affrontement presque permanent du danger, avec le sens de la solidarité, de la fraternité, pour retrouver un monde qu'on ne comprend plus, une société d'après-guerre, toujours un peu dissolue, toujours un peu éprise de plaisir après la grande tourmente. Une société pour laquelle on s'est battu, une société qui renoue avec le goût du plaisir, l'attrait de l'argent, etc. Il y a donc des notations dans Le Soleil se lève aussi qui ont des résonances en moi extrêmement profondes et vivaces. Il y a un autre aspect. Dans Le Soleil se lève aussi, on ne peut oublier la fameuse fiesta de Pampelune. Cela nous ramène à dire qu'Hemingway est un très bon connaisseur de l'Espagne et des Espagnols. Et par exemple, je vais citer une phrase d'Hemingway prise hors de l'œuvre dont nous parlons et qui me paraît fondamentale. « Les Espagnols savent que la mort est l'inévitable réalité, la seule chose dont un homme puisse être sûr, la seule certitude. Ils pensent beaucoup à la mort et lorsqu'ils ont une religion, c'est une religion qui croit que la vie est beaucoup plus courte que la mort. Ayant ce sentiment, ils apportent à la mort un intérêt intelligent. » Cette connaissance-là de l'Espagne me ravit toujours. Et nous en arrivons au soleil. Se lève aussi. Eh bien, je vais vous lire un premier passage. C'est tout bonnement une corrida. Eh bien, la corrida représente à coup sûr un des aspects du tempérament espagnol. C'est un sport et un jeu national. Hemingway, lui, dans un de ses livres, a dit qu'il s'agissait d'une authentique tragédie. Leur mort dans l'après-midi, dans son essai sur la tauromachie, il a dit que c'est une véritable tragédie parce que l'un des protagonistes doit mourir, vraiment mourir. Le plus souvent, c'est le taureau, certes, mais il arrive aussi fréquemment que ce soit le matador. Et après tout, dans une de nos premières soirées, je vous ai lu une partie du chant funèbre à Ignacio Sánchez Mejías de García Lorca qui suffirait à prouver que les victimes ne sont pas toujours du même côté. Mais enfin, nous avons eu beaucoup de descriptions de corrida. Eh bien, à mon sens, la plus sensible, la plus savante et la plus technique en même temps, et celle qui, au-delà de l'aspect technique, révèle les hommes de la reine et révèle aussi l'homme espagnol, est celle que je vais essayer de vous lire. Le premier taureau était à Belmonte. Belmonte fut très bon. Mais parce qu'il gagnait 30 000 pesetas et que les gens avaient fait la queue toute la nuit pour avoir des places, la foule aurait voulu qu'il fût plus que bon. La spécialité de Belmonte est son travail tout près du taureau. En tauromachie, on parle du terrain du taureau et du terrain du matador. Tant que le matador reste sur son propre terrain, il est relativement en sûreté. Belmonte, dans ses grands jours, travaillait toujours dans le terrain du taureau. C'est ainsi qu'il donnait la sensation de tragédie imminente. Les gens allaient aux courses pour voir Belmonte, pour avoir des sensations tragiques, et peut-être pour voir la mort de Belmonte. Il y a 15 ans, on disait que ceux qui voulaient voir Belmonte n'avaient qu'à se presser tant qu'il était vivant. Depuis, il a tué plus de 1 000 taureaux. Quand il se retira, la légende s'empara de son style tauromachique, et quand il recommença à torréer, le public fut désappointé parce que personne n'aurait pu travailler les taureaux d'aussi près que Belmonte. Belmonte imposait également des conditions. Il insistait pour que ces taureaux ne fussent ni trop grands ni trop armés. Il manquait donc l'élément nécessaire pour créer l'atmosphère de tragédie, et le public qui attendait de Belmonte 3 fois plus que Belmonte n'avait jamais été capable de donner se sentait fraudé et volé. Le mépris accentuait encore le prognatisme de Belmonte et son visage devenait plus jaune. À mesure que ses douleurs augmentaient, ses mouvements se ralentissaient. Et finalement, la foule se mit violemment contre lui et il resta suprêmement méprisant et indifférent. Il avait espéré une après-midi glorieuse. Au lieu de cela, c'était une après-midi de sarcasmes, d'insultes, terminée par une volée de coussins, de morceaux de pain, de légumes qu'on lui jetait dans ses arènes où il avait connu ses plus grands triomphes. Il se contentait d'avancer la mâchoire. Parfois, en entendant une insulte particulièrement dure, il se tournait pour sourire, de ce sourire sans lèvres, sourire de dents et de mâchoires. Et la douleur que lui causait chaque mouvement augmentant sans cesse, son visage jaune prit la teinte du parchemin. Et après la mort du second taureau, quand la pluie de pain et de coussins eut cessé, après avoir salué le président de ce même sourire de loup, l'œil méprisant, après avoir passé son épée par-dessus la barrera pour qu'on l'essuyât et qu'on la remît dans son fourreau, il entra dans le callejón et là, appuyé à la barrera en dessous de nous, la tête sur les bras, ne voyant plus rien, n'entendant plus rien, il s'abandonna tout entier aux douleurs qui le lancinaient. Quand finalement il leva les yeux, il demanda un verre d'eau. Il en avala un peu, se rinça la bouche, cracha l'eau, prit sa cape et retourna dans l'arène. Comme le public était contre Belmonte, il était pour Romero. À partir du moment où Romero quitta la barrera pour s'approcher du taureau, on l'applaudit. Belmonte aussi regardait Romero. Il ne cessait de le regarder sans en avoir l'air. Il ne faisait point d'attention à Martial. Martial, c'était quelque chose qu'il connaissait. Il s'était remis à taurer pour pouvoir rivaliser avec Martial, sachant que la partie était gagnée d'avance. Il savait qu'il aurait à rivaliser avec Martial et les autres étoiles de tauromachie décadente. Et il était sûr que la sincérité de son art personnel serait tellement mise en valeur par la fausse esthétique des toreros de la décadence qu'il lui suffirait tout simplement de se montrer dans l'arène. Et sa rentrée avait été gâtée par Pedro Romero. Romero faisait toujours doucement, calmement et admirablement ce que lui, Belmonte, ne se décidait pas à faire. La foule le sentait. L'ambassadeur américain finit même par le sentir aussi. C'était une lutte que Belmonte n'entreprendrait pas, parce qu'elle ne pouvait aboutir qu'à une blessure grave ou à la mort. Belmonte n'était plus assez bien. Ce n'était plus aux arènes, maintenant, qu'il pouvait prétendre à la grandeur. Il doutait même qu'il eût des moments de grandeur. Les choses avaient changé, la vie ne venait plus maintenant que par éclairs. Il avait des éclairs de son ancienne grandeur en face des taureaux, mais ces éclairs étaient sans valeur, parce qu'il les avait écartés d'avance lorsque, au sortir de son auto, il avait examiné, appuyé à la barrière, le troupeau de son ami l'éleveur pour y choisir des bêtes de tourpeau. C'est ainsi qu'il avait eu deux petits taureaux maniables, courtement armés, et quand il sentait la grandeur lui revenir, si peu que ce fût, à travers la douleur qui ne le quittait pas, c'était une grandeur écartée et vendue d'avance, et il n'en éprouvait aucun plaisir. C'était bien la grandeur, mais pour lui, elle ne transformait plus l'art tauromachique en merveille. Romero, lui, possédait la grandeur. Il aimait Toré, et je crois qu'il aimait les taureaux, et je crois aussi qu'il aimait Brett. Tout ce qui dépendait de sa volonté, il le fit devant elle toute l'après-midi. Jamais il ne leva les yeux sur elle. C'était plus fort ainsi, car il le faisait pour lui-même tout aussi bien que pour elle. Parce qu'il ne la regardait pas pour quêter son assentiment, tout ce qu'il faisait, il le faisait intérieurement, pour lui-même, et cela le fortifiait. Et cependant, il le faisait pour elle aussi. Mais il ne faisait point pour elle à son préjudice. Il en bénéficia toute l'après-midi. Son premier quitté eut lieu exactement au-dessous de nous. Chacun à leur tour, les trois matadors occupèrent le taureau après chaque assaut contre un des picadors. Belmonte d'abord, puis Martial et enfin Romero. Tous les trois se tenaient à gauche du cheval. Le picador, le chapeau sur les yeux, la pique à angle aigu vers le taureau, les éperons dans les flancs du cheval, les rênes dans la main gauche, conduisit le cheval au taureau. Le taureau surveillé. Il avait l'air de surveiller le cheval blanc, mais en réalité, il surveillait la pointe d'acier triangulaire de la pique. Romero, attentif, vit le taureau détourner la tête. Il ne voulait pas foncer. Romero déploya sa cape pour que la couleur en frappa l'œil du taureau. Le taureau fonça par réflexe. Il fonça et, au lieu de l'éclair coloré, il rencontra un cheval blanc. Sur le cheval, un homme penché ficha la pointe d'acier d'un long manche ennoyé dans le garrot musculeux du taureau. Usant de la pique comme d'un pivot, il écarta le cheval et enfonçant le fer, il infligea une blessure au taureau, le faisant saigner pour Belmonte. Le taureau le sentait à pas sur le fer. Décidément, il ne voulait pas des chevaux. Il tourna et le groupe se dispersa. Et Romero le dirigea avec sa cape. Il le dirigeait doucement, calmement. Puis, s'étant arrêté droit en face du taureau, il lui présenta la cape. Le taureau dressa la queue, fonça. Et Romero, déplaçant les bras devant le taureau, tourna bien d'aplomb sur ses pieds. La cape humide, lourde de boue, se déploya, s'enfla comme une voile. Et Romero pivota avec elle juste devant le taureau. À la fin de la passe, ils étaient de nouveau face à face et Romero souriait. Le taureau chargea à nouveau et la cape de Romero se gonfla encore, mais de l'autre côté cette fois. Et chaque fois, il laissait le taureau le frôler de si près que l'homme, le taureau et la cape qui s'enflaient et tournoyaient ne formaient plus qu'une masse aux contours aigus. Tout était si lent, si calculé. On aurait dit qu'il berçait le taureau pour l'endormir. Il fit ainsi quatre Véroniques et termina par une demi-Véronique qui le laissa le dos tourné vers le taureau. Alors, la main sur la hanche, la cape sous le bras, tandis que le taureau regardait son dos s'éloigner, il s'avança vers l'ovation. Voilà un récit, comme vous en avez beaucoup lu, et cependant celui-ci nous apporte une série de notations sur cette tragédie de la reine. Et surtout, il nous apporte sur le monde de la reine une connaissance psychologique qui, je crois, n'a jamais été égalée, même par, en dehors des spécialistes de la reine, bien entendu, même par les écrivains espagnols ou étrangers, comme Joseph Perret, comme Blasco Ibáñez et tant d'autres. À l'exception toutefois, je veux le signaler, d'un petit livre d'un tout jeune écrivain qui s'appelle Christian Dedé et qui s'appelle « Le plus grand des taureaux ». Si je parle de ce livre-là, c'est parce que, à mon étonnement et à mon émerveillement, il y a eu là, chez ce jeune français, ce jeune écrivain français, il y a eu là une connaissance intuitive de cette psychologie des tueurs de la reine, disons, de cette tragédie qu'est véritablement une fiesta. Tout ceci pour dire que j'ai beaucoup parlé de la mort tout au long de ces entretiens. Et bien sûr, je vous ai lu la phrase d'Hemingway au début du dernier sur la mort et les Espagnols. Mais enfin, ce n'est pas par un goût morbide de la mort qu'on me croit. Tous ces livres-là m'offrent non seulement une méditation sur la mort, mais sur le bonheur, mais aussi sur le prix de la vie, montrent un possible accès au bonheur de Camus à Dostoïevski et de Cervantes à Hemingway. Tous m'apportent, et c'est fondamental à mes yeux, une image de notre destin. Je veux dire que tous ces auteurs m'apprennent, et de façon permanente, au cours des soirées où leurs livres constituent mes livres de chevet, ce qui compte le plus pour nous tous, c'est-à-dire comment vivre et comment mourir.
Emmanuel Robles a lu ce soir un extrait du roman d'Hemingway, Le soleil se lève aussi. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois du 29 avril au 3 mai 1968.